Bonjour à tous, un œil ailleurs est au rendez-vous sur Studio Zef. Soyez les bienvenus en direct. Et oui, c'est reparti pour cette année. Une heure le mercredi soir pour vous parler modestement et subjectivement du monde comme il va, avec des chroniques sur l'ailleurs, une interview qui aujourd'hui nous emmène en Irlande, des sons et de la musique chic et choc, le tout orchestré par mes camarades Alice et Jérémy. Bonsoir aux voyageurs immobiles.
Salut Véro.
Vous allez bien ?
Salut Véro.
Ça va bien. Ouais. Bien content de repartir.
Exactement. Hein. C'est pas mal hein,
ouais,
quand même.
Ouais.
On est toujours content d'être là. Et pour la séquence interview, je disais quand même notre invitée du jour est irlandaise. Bonsoir Ursula.
Bonsoir tout le monde.
Tu vas bien toi aussi ?
Très bien,
bon,
en forme.
En forme, très bien. On va passer une demi-heure d'interview là, formidable. Et une heure d'émission. On ne va pas tarder, on y va direct.
Bon,
hein, là,
on
n'a hein.
qu'à y aller.
Allez,
oui.
C'est parti.
Allons-y.
Maurice. On a l'antenne. On a l'antenne.
Quelle heure il est ?
C'est l'heure de nous informer. En image, la semaine. Maurice.
Oh putain, je sais pas vous, il n'y a plus la guerre, moi je suis démobilisé.
Et nous voilà repartis pour une nouvelle saison de Petit Tour de la Planète totalement subjectif. Alors en réponse à mes camarades quelque peu affolés par l'état du monde et dont le moral chute quasi systématiquement à l'issue de ce petit road trip mensuel, je m'étais engagée à dénicher des informations positives pour la saison 2 d'Un œil ailleurs. Mais voilà, chers camarades, malgré mes recherches poussées, je suis au regret de vous dire que soit les médias prennent un malin plaisir à ne relayer que les pires nouvelles, soit le monde va réellement mal. Aussi, je prends ici l'engagement de faire tout mon possible pour vous réconcilier avec le genre humain, mais en attendant, je m'excuse par avance pour les nouvelles du jour. Car notre petit tour de la planète totalement subjectif commence aujourd'hui dans les prisons palestiniennes. Et oui, chacun sait combien il m'importe de dénoncer dès que je le peux l'oppression dont fait l'objet le peuple palestinien. Mais, l'honnêteté m'oblige à aller voir de l'autre côté quand c'est nécessaire. Et ce n'est pas joli joli. Ainsi, Human Rights Watch dénonce les tortures pratiquées fréquemment par le Hamas ou l'autorité palestinienne, chacun sur son territoire à l'égard des opposants. L'analyse recoupe de nombreux témoignages recueillis pendant 2 ans. Alors pour rappel, le Hamas administre la bande de Gaza, tandis que l'autorité palestinienne a la main sur la Cisjordanie. Et il est un doux euphémisme de dire que les deux factions peinent quelque peu à s'entendre, ce qui fait d'ailleurs le drame du peuple palestinien. Alors le souci, c'est qu'alors que le rouleau compresseur israélien ne cesse de gagner du terrain en Palestine, ce genre de rapport ne va pas vraiment aider à faire entendre la cause palestinienne. D'autant que l'ONG américaine appelle la communauté internationale à revoir ses aides financières au regard de ce rapport. De là, imaginer un grand complot contre le peuple palestinien, il n'y a qu'un pas que nous nous garderons bien de franchir ici.
Eh bien en effet, partons plutôt en Espagne, combattre le grand capital.
Eh oui. À propos de grands complots, la justice espagnole a fait très fort récemment. Le 17 octobre, dans le cadre d'un contentieux administratif, la Cour suprême rend un jugement qui dit que, dans le cadre d'un prêt immobilier, c'est à la banque et non pas au client de régler la taxe sur les documents juridiques lors de la signature devant le notaire. Jusque-là, c'était au client de s'en acquitter. Bon, ça vaut à peu près entre 0,5 et 1,5% du montant du prêt. Et le truc, c'est que selon la rétroactivité de la mesure, l'agence Moody's annonce que le coût pourrait représenter 4 milliards d'euros pour le secteur bancaire. Et là, bing, coup de bambou à la bourse, le cours des banques espagnoles chute et fait partir en fumée 6 milliards d'euros de capitalisation boursière. Eh bien, devinez quoi ? Le lendemain, le président de la salle de contentieux administratif suspend la mesure en raison, je cite, de son énorme répercussion économique et sociale. Donc, mesure suspendue le temps que le tribunal se réunisse en plénière pour décider de la suite à donner. Bilan des courses, il est acquis que ce ne sera pas plus aux citoyens de payer la dite taxe, mais il n'est pas du tout certain que ce soit aux banques de le faire non plus. Résultat, le 5 novembre.
Et de l'Espagne au Maroc, il n'y a que le détroit de Gibraltar à franchir et nous y voilà.
Et oui, justement, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, Marocains et autres migrants, à vouloir le traverser, ce détroit méditerranéen, à tel point que, probablement encouragés de façon plus ou moins directe par l'Europe, la justice marocaine tente de les empêcher de faire la traversée. Au point de tirer sur un bateau de migrants comme ça s'est passé le 25 septembre dernier. La marine marocaine a tué une jeune étudiante de 22 ans qui tentait de rejoindre l'Espagne en tirant sur un bateau où elle s'était embarquée avec d'autres compatriotes. Alors officiellement, Le bateau réalisait, je cite, des manœuvres hostiles. Alors bon, quand on voit les rafiots, on se dit que les autorités auraient pu trouver meilleure excuse. Le hic, c'est qu'un jeune supporter de foot a voulu dénoncer ce meurtre à l'occasion d'un match de foot à Tétouan le 30 septembre. Il a donc appelé via Facebook à manifester et à porter des vêtements noirs de deuil. Et bien dans ce haut lieu de la démocratie qu'est le Maroc, Soufiane Al-Nguad, 32 ans, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour outrage au drapeau national, manifestation non autorisée et destruction de biens publics et privés.
Alors à propos de démocratie, on termine par un tour au Vietnam.
Ouais, il est assez rare que nous nous rendions dans ces contrées de la péninsule indochinoise. Alors bah, que se passe-t-il, me direz-vous? Bah en fait, pas grand-chose. Comme le chef d'État est décédé, il va être remplacé. Mais figurez-vous qu'il n'y a qu'un candidat en lice, le chef du parti communiste au pouvoir et homme fort du pays, Nguyen Phu Trong. C'est fou ça. Alors l'Assemblée nationale va le désigner nouveau président de la République et le monsieur pourra continuer à s'aligner sur les lignes chinoises et à faire taire les dissidents. Rien de nouveau en somme.
Voilà, c'était Feu Rory Gallagher, mon rocker préféré, je le dis, avec le titre I'm Not Awake Yet. Voilà, Rory Gallagher.
T'as pas profité de l'été pour prendre des cours d'anglais,
en fait. Non, pas du tout. Alors, des cours d'anglais, alors je suis désolée, il s'est amélioré, mais c'est l'accent.
Oui, la voilà. Prononciation, bon, c'est notre principal problème.
Ouais. Mmh. Bah, ne te moque pas, s'il te plaît.
Non, parce que là,
c'est l'interview.
Je t'en bats.
C'est l'interview avec Ursula. non, c'est pas l'interview avec Ursula, d'accord, ok. Voilà, c'était Rory Gallagher. Et Alice ?
Oui.
C'est quoi maintenant ?
C'est quoi maintenant ? Mais c'est notre petite carte postale sonore ? Non, c'est pas notre petite carte postale sonore.
Tout,
moi je
tout.
Croyais qu'on
c'est
avait
pas...
carte postale sonore, mais non, c'est... on a interview.
Absolument pas.
D'accord.
Voilà.
Pardon.
Donc Alice, es-tu prête à nous présenter notre invitée ?
Oui.
Ursula Doyle, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre.
Tout à fait, tout à fait. Ben ouais, parce que messieurs, dames, on n'a pas eu la patience d'attendre la Saint-Patrick pour vous emmener en Irlande. On prend le ferry tout de suite et on embarque. Mais vous le savez, impossible de démarrer le voyage sans le quiz qui va bien, pour voir si vous êtes au point. Alors c'est parti, tic-tac, tic-tac. tic-tac, j'adore. Tic-tac, quel est le jour de la Saint-Patrick? Tic-tac.
J'ai le droit de répondre.
Ouais, bah ouais, ouais, parce que là,
je vous aide. Ouais. 17 mars.
17 mars. Bon. Bravo, Ursula.
J'espère que je vais répondre.
Ouais, alors attention, parce qu'on monte, en puissance. Oh là là. Quel est le nom du président de la République d'Irlande? Tic-tac, 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 tic-tac.
Higgins.
Michael D. Higgins.
Bravo. 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 Yes. Excellent.
En quelle année ont été signés les accords de paix du vendredi saint qui ont marqué la fin du conflit en Irlande du Nord?
1921.
La fin du conflit en Irlande du Nord.
Ah, en Irlande du Nord.
C'est plus récent.
Tic-tac, tic-tac.
Je dirais... 86.
Ouais, non, mais moi j'ai grandi avec le conflit, donc certes, je ne suis plus toute jeune. 98.
Non.
Si.
C'est encore récent.
Ouais. Hein. Non, le temps passe vite, ma pauvre Véro. Et une petite dernière. Qu'est-ce que le fameux Shamrock qui a donné son nom à de nombreux pubs en France?
Alors là, une boisson?
Non, pas vraiment. Bon, Jérémy a carrément refusé de participer.
Ça aurait pu être le cas. Mais
alors, non, Ursula, qu'est-ce que c'est que le Shamrock?
C'est un trèfle.
C'est ça. Alors, il a quatre ou trois feuilles. Parce que moi, j'avais vu que c'était le trèfle à trois feuilles que Saint Patrick avait utilisé pour expliquer la Sainte Trinité au peuple celte.
Donc, il y a toujours un petit lien avec la religion, mais aussi le fait de retrouver un trèfle avec quatre feuilles, Alice, qui porte chance.
D'accord.
C'est très lucky de trouver quatre feuilles. C'est plus rare et ça porte chance.
D'accord. Et donc, voilà, le fameux Shamrock. Donc, maintenant, je saurai ce que ça veut dire quand je passe devant un pub qui porte ce nom. Bien. Bon, alors, vous êtes presque prêts à embarquer, j'allais dire. Les réponses étaient quasiment bonnes. Ouais. Mais alors, pour aller où, au fait? Eh bien, sur une île, la troisième plus grande de l'Europe. Alors, ne me demandez pas quelles sont les deux premières, je n'en sais strictement rien. Une île verte, donc, plutôt montagneuse sur les bords et plate au milieu, et puis avec beaucoup de lacs aussi. Une île coupée en deux, une Irlande du Nord rattachée à la couronne d'Angleterre, une partie qui s'affirme fièrement République d'Irlande. Une île qui a fait la une des journaux pendant une trentaine d'années avec ce qu'on appelle poliment les Troubles. Exactement. En Irlande du Nord. Une île qui a vu mourir Bobby Sands de s'être affamé en prison comme neuf autres prisonniers nord-irlandais face à une Margaret Thatcher intraitable. Mm-hmm. L'Irlande, c'est aussi Bloody Sunday chanté à tue-tête par des ados français qui n'en comprenaient pas un traître au mot, mais trouvaient la musique fun et Bono cool. et puis l'Irlande, eh ben, c'est aussi après avoir vécu dans la grande pauvreté, une île qui nargue désormais ses petits copains européens avec un taux de chômage à 4,4%. Le deuxième PIB par habitant de l'Union européenne après le Luxembourg. Alors j'avoue que là j'étais extrêmement étonnée. C'est une île où, paraît-il, il pleut un peu et le vent fouette, mais c'est super beau, assure les copains qui reviennent trempés et décoiffés.
Ah oui,
exactement. Très belle lumière aussi.
Et c'est enfin une île où, du coup, on se réchauffe dans les pubs à coups de Guinness et de Dirty Old Man. Bref, aujourd'hui, on s'attaque un peu à un mythe. Et pour en découvrir les moindres recoins, eh ben, on a à nos côtés Ursula Doyle. Donc je te redis bonjour, Ursula.
Rebonjour, Alice. Et merci de ton invitation.
Ah ben, c'est avec plaisir. Je suis hyper contente d'avoir ton bel accent à l'antenne. Alors Ursula, tu es née, ça ne s'invente pas, à Kilkenny.
Exactement, comme la bière.
Voilà, dans le sud de l'Irlande. Mais tu as quitté ton île natale pour la France il y a une vingtaine d'années. Exactement. Et puis bah, maintenant, tu as adopté le vignoble du Val-de-Loire où tu vis
depuis
quelques
années. J'ai troqué la bière pour le vin. Voilà.
Pour le vin, tu as eu bien
exactement.
Raison. et puis bah, tu es interprète, traductrice, prof d'anglais et tu fais du conseil à l'export auprès des entreprises.
Ah, je vais prendre des cours avec toi.
Voilà.
Je ne me prononce pas sur le sujet ce soir.
Et alors, bah, moi, ma première question, Ursula, c'est si tu devais décrire l'Irlande en un mot ou en une phrase, ce serait quoi?
Vaste sujet. Beau, accueillant, mystique.
Mystique? Mystique pourquoi?
Mystique à cause de la lumière, à cause du passé, à cause de tous les jolis monuments qui sont encore là aujourd'hui. Et les Français, comme les autres nationalités, disent toujours des endroits en Irlande où vraiment il y a une ambiance qui est tangible. Et on essaie souvent de le capter en photo. Mm-hmm. D'ailleurs, si vous m'écoutez, les Blaisois et autres personnes, ceux qui adorent la photo peuvent se régaler en Irlande. Je ne travaille pas pour l'Office de tourisme national, je précise au passage, mais sincèrement, il y a des très beaux paysages et des très, très belles lumières. Et ça contribue à ce côté mystique qui n'est pas partout, mais qui est dans certains endroits très prononcés.
Et alors justement, mystique, moi ça me fait penser, ça n'a peut-être rien à voir, il est beaucoup question d'identité celte, elle est présente, cette, quand tu parles de bâtiments, c'est un peu des bâtiments, c'est un peu la Bretagne avec ses bâtiments en gros en granit, etc.
Effectivement, il y a beaucoup de similitudes et quand je me retrouve en Bretagne, quand je quitte le Loir-et-Cher, ça là m'arrive de temps en temps. Et si je navigue jusqu'à la Bretagne, je trouve beaucoup de points de similitude avec l'Irlande. Mm-hmm. Et même le langage aussi. Vous voulez que je vous donne un petit bout de gaélique?
Ah oui, pour vous
amuser.
Oui. Oui.
Après l'anglais, un petit peu de gaélique. voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On a parlé de l'accueil en Irlande. Je vais vous dire un petit mot d'accueil en irlandais. À tous les Blaisois, bonsoir à tout le monde. Cead mille fáilte.
Ah,
ça veut dire 100 000 bienvenus.
100 000 bienvenus.
Parce que l'accueil irlandais est très connu et en gaélique, on dit Cead mille fáilte. 100 000 bienvenus. 100 000 fois bienvenus. Mm.
C'est la langue, le gaélique, c'est encore parlé. Le gaélique, c'est ce qu'on appelle l'irlandais
ou exactement. Oui, le gaélique, l'irlandais, exactement. Alors, il est encore parlé au quotidien dans un coin du pays, sur la façade ouest, pas loin du Connemara. Mm-hmm. Qui est très connu à cause des lacs du Connemara, la fameuse chanson. Les lacs du Connemara.
Non, chante pas Alice.
Et le gouvernement, depuis des années, fait un réel effort de soutenir cette langue et de la garder vivante. Et donc, il y a des aides pour les entreprises, des aides pour les écoles. Et donc, c'est parlé au quotidien dans cette petite enclave, entre guillemets. C'est quand même réduit au niveau géographique. Et puis ailleurs dans le pays, on apprend l'irlandais dès l'école, donc le gaélique irlandais, dès l'école primaire, comme une langue étrangère.
Ah d'accord, la langue c'est l'anglais autrement
au quotidien et toutes les autres matières sont enseignées en anglais effectivement et on apprend le gaélique comme une langue étrangère comme le français à l'école.
D'accord, mais c'est une langue, il y a une vraie volonté de soutenir cette spécificité.
Et récemment, il y a de plus en plus de personnes qui revendiquent l'irlandais et même des écoles 100% en irlandais qui ont été créées. Mm-hmm. Donc, je dirais que la vague est plutôt à tendance positive que négative.
D'accord. Ouais. Et justement, quand on a un petit peu préparé cette émission, tu m'as dit, on a parlé d'Irlande du Nord, et tu m'as dit, oui, mais moi, je suis née dans le Sud, c'était la République. La République d'Irlande.
Voilà, exactement.
Et je n'avais pas du tout pris conscience que ce pays, il était coupé en deux, en fait, concrètement.
Alors, sans vous raconter ma vie, Alice, parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais quand je pense à mon enfance, effectivement, il y avait les fameuses troubles à l'époque en Irlande du Nord. Et en tant que petite île, on ne traversait jamais la frontière. On n'osait pas, et c'était même à la frontière qu'il y avait souvent des attentats, des attaques, etc., quand les personnes osaient quitter le Sud pour aller vers le Nord.
D'accord.
Et pour tout vous dire, il y a quelques années où j'ai découvert le Belfast et les falaises, le Giant's Causeway Antrim, qui se trouve en Irlande du Nord, et c'est très, très beau, je ne l'avais jamais visité.
D'accord.
Pourtant, j'avais visité d'autres pays, mais je n'avais pas visité cette région de mon propre pays.
Est-ce que justement,
c'est dangereux.
Aujourd'hui, est-ce que j'ai cru comprendre que cette frontière, elle était matérialisée encore par une porte dans un quartier de Dublin. Non, pas de Dublin, de
Belfast.
De Belfast,
sûrement de Belfast.
Ouais, oui, de Belfast.
Oui, oui.
Et elle était fermée le soir. Elle se refermait le soir. Alors, c'est quelque chose à vérifier, mais...
Oui, écoutez, voilà. Je sais que cette porte existe. Mm. Pour dire si oui ou non, elle est fermée le soir, je ne saurais pas confirmer ni dire le contraire, okay. Mais elle existe
donc
bel et bien toujours.
Elle existe bien toujours.
C'est un reliquat de l'époque.
Mm.
Et c'est un peu un monument aussi de cette... Ça peut être effacé comme... Ouais. Ou écrasé comme le mur de Berlin, mais c'est quand même le symbole de cette division qui existait à l'époque. Elle n'a pas été enlevée. Et elle a valeur de symbole aujourd'hui. Et par contre, je ne sais pas si elle est fermée le soir ou pas. Je ne peux pas dire.
Mais aujourd'hui, ça se passe comment? On sait que l'Irlande du Nord est pacifiée. Pour autant, le pays, tu nous as dit que tu étais allée récemment. Mm. Maintenant qu'il n'y a plus la guerre, maintenant qu'il n'y a plus d'attentats, comment ça se passe? Ça reste quand même deux pays. Il n'y a pas d'union entre les deux. Les Irlandais du Nord ne sont pas les mêmes que les Irlandais du Sud et vice-versa.
Je pense que le changement ne va pas se faire si vite. Et il faut, comme toute guerre civile, parce que c'était quand même un peu une guerre civile, du temps pour que les choses évoluent. Et aujourd'hui, les choses avancent dans le bon sens, mais il y a quand même encore des différences nettes entre les deux modes de vie, entre les approches. Il faut que les avis aussi changent des deux côtés. et que les peuples se retrouvent peut-être de plus en plus, ça va dans le bon sens, mais il y a encore du chemin à faire, je dirais, mais pour rester simple.
C'est uniquement lié à l'influence britannique et donc à une Irlande du Nord qui dit « Ok, on appartient à la couronne britannique », ce que refuse l'Irlande du Sud et les républicains, ou est-ce qu'il y a d'autres points d'achoppement en fait entre les Irlandais?
C'est pas notre vocation ce soir de faire une émission politique, c'est sûr, mais il y a pas mal de choses qui sont liées entre elles. Effectivement, comme tu dis, c'est bien plus complexe que ça n'en a l'air. Ce n'est pas que des histoires oui ou non avec l'Angleterre, c'est aussi des histoires d'économie. Parce que l'Irlande du Nord avait beaucoup de chantiers navals et bâtissait les grands bateaux, etc. Il y avait beaucoup d'industrie de lin aussi autour de Belfast. Et tandis que dans le sud, on crevait de faim, c'est le cas de le dire. Donc il y a aussi une jalousie, une rivalité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très, très complexe.
D'accord, c'est pas juste une histoire protestant-catholique. Voilà.
Exactement. Il y a la religion, il y a l'économie, il y a la violence. Et ces choses-là sont un peu enracinées. Et comme je disais, ça va dans le bon sens, mais il va falloir du temps. Je reste très optimiste, bien sûr. Ça va dans le bon sens, mais il va falloir du temps pour que le pays soit vraiment uni. Et avec le Brexit, ça n'arrange pas forcément non plus la donne. C'est clair. Ça complique encore plus les choses aussi.
Dans quelle mesure le Brexit complique les choses, justement?
Il va y avoir un référendum là, cette semaine et les Irlandais, je vois même les discussions récemment dans ma famille, les Irlandais ne comprennent absolument pas cette décision de l'Angleterre de quitter l'Union européenne et pas comme beaucoup d'Européens d'ailleurs, mais vraiment ne comprennent pas parce que les Irlandais historiquement sont très pro-Europe, l'ont toujours été, ont beaucoup profité, il est vrai. Depuis les années 70, je voyais tous les grands panneaux le long des routes, les fonds venaient de l'Union européenne. Pour revitaliser le réseau routier, c'est juste un exemple parmi tant d'autres.
Parce que l'Irlande a adhéré en 1973.
Exactement. Donc, dans les années 70, il y a un énorme flux de capitaux depuis l'Union européenne qui a beaucoup aidé l'Irlande. Et de fait, l'Irlande est restée depuis très pro-Europe et ne comprenait absolument pas. C'était de stupéfaction, cette vote du Brexit en Irlande, c'était la stupéfaction générale. Sincèrement, les Irlandais ne comprenaient vraiment pas.
Et ça veut dire qu'en Irlande, on pourrait arriver à une absurdité qui fait que l'Irlande du Nord ferait partie ne serait plus en Europe et que la République d'Irlande, en revanche, serait en Europe.
Et ça ne va pas faciliter la cohésion. Donne. On va faire une espèce de retour en arrière, et ce qui serait bien dommage à l'issue, je pense, personnellement.
Et tu nous disais que du coup, il y avait... Alors ça, c'est pareil, c'était une donnée, moi, que je n'avais pas du tout en tête, cette différence entre le Nord et le Sud en termes de richesse.
Oui.
L'Irlande est connue, en effet, pour avoir été un pays très, très pauvre, finalement, avec peut-être peu de ressources, et aujourd'hui avoir bondi, ce que je disais tout à l'heure, deuxième PIB de l'Europe par habitant, ce qui est assez délirant.
C'est spectaculaire, progression, on peut le dire. Oui.
Comment tu l'expliques? C'est l'injection de fonds européens. Alors, soyons honnêtes, il y a quand même le problème de l'Union européenne, c'est qu'on a des taux d'imposition, des fiscalités qui sont quand même à géométrie extrêmement variable. Et je crois que l'Irlande, elle est très laxiste là-dessus.
Exactement. Alors, comme la question tout à l'heure, je dirais que la réponse, elle est complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Il y avait bien sûr beaucoup de pauvreté dans l'Irlande du Sud. Il y avait la famine. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais je rappelle, même depuis mon enfance, le gouvernement a pris un parti pris à l'époque de privilégier le tourisme, la beauté du pays et ne pas l'abîmer par les industries lourdes et une vraie volonté de faire des investissements de tout ce qui est informatique qui était précurseur à l'époque. Et je m'appelle, on nous apprenait à faire de le code à l'école quand on était vraiment très jeune, il y a pas mal d'années.
Dans les années 80,
voilà,
70,
c'est ça, on nous apprenait à coder déjà à l'école. Et donc, beaucoup d'investissements dans l'informatique qui étaient précurseurs à l'époque. Ils étaient plutôt visionnaires là-dessus pour garder le pays propre, entre guillemets, et puis des services financiers. Et puis les plateformes, l'avantage de pouvoir parler en anglais, puisque c'est un pays anglophone, comme on disait tout à l'heure, Alice, non pas un papa irlandais, on parle anglais. Énormément de plateformes téléphoniques. Tous les centres d'appel d'Europe se trouvent là-bas maintenant.
Google,
ça paraît, c'est des industries non polluantes, si j'ose dire. Et voilà, effectivement. Et le gouvernement a aussi décidé à l'époque, a beaucoup tablé sur l'allègement fiscal, dont tu viens de parler, Alice. Et les entreprises avaient plein d'avantages au niveau des impôts pour s'installer en Irlande et créer de l'emploi.
Un œil ailleurs.
Des nouvelles du monde.
Oui, c'est ce qu'on disait, hein, y a Google est là-bas, je ne sais plus, il y a un petit peu toutes les multinationales ont leur siège à Dublin. J'étais très surprise, là, récemment, j'ai rencontré des gens dont les enfants travaillent en Irlande, et il y a de plus en plus, en fait, de Français qui vont travailler là-bas. Et c'est marrant, parce que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les Irlandais, à un moment, ont émigré,
notamment vers les États-Unis et l'Australie, effectivement, les pays anglophones, de fait.
Voilà, c'est ça.
Exactement,
et là, c'est un petit peu le mouvement inverse qui se produit. Ouais. Donc,
exactement.
Informatique, tourisme, c'est essentiellement les deux secteurs, économiques qui font qu'il y a eu ce boom.
Exactement. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi pour le tourisme, ce qui est tout à fait bien joué à mes yeux, à mon humble avis, c'est que le pays a su évoluer avec le temps. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un mythe, mais les Français ont souvent en tête, parce qu'ils échangent avec moi, j'adore ça, ils me parlent de Taxi Mauve, ils me parlent de L'Homme Tranquille, les films, des images qu'on peut avoir en tête de l'Irlande d'avant. Et il y avait des campagnes de publicité pour le tourisme qui ont été diffusées dans le monde entier dans cet esprit-là. Mais avec les années, maintenant, on est plus dans une... ils ont su évoluer, il faut toujours rester attractif pour les jeunes. Ils ont lancé toute une campagne qui s'appelle Wild Atlantic Way et qui met l'emphase sur le côté un peu surfeur. On fait beaucoup de surf en Irlande parce que c'est l'Atlantique sur la façade ouest, comme vous savez. Alors du coup, il y a des très, très belles vagues. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire du surf. Et il y a aussi des choses comme, par exemple, des tournages des grandes séries que tout le monde connaît, comme Game of Thrones, qui ont lieu en Irlande.
Avec des paysages très sauvages.
Voilà, c'est ça. Et il faut garder ce côté, dans l'esprit des gens, par les campagnes de tourisme, rester actuel, se réinventer, tout en restant fidèle à ses origines et cette image que les gens peuvent avoir de l'Irlande. Donc, sincèrement, d'un point de vue, moi qui ai beaucoup travaillé dans le marketing, d'un point de vue communication sur le tourisme, c'est très réussi.
Mais et visiblement, en plus, ce que tu me disais, c'est que c'est cohérent avec l'état d'esprit. Tu me disais que la fibre écologique, moi, je trouve ça très intéressant qu'un pays ait refusé des industries polluantes pour préserver le pays. Donc, c'est-à-dire qu'une conscience du paysage assez tôt, finalement. Et donc, un lien à l'écologie. Alors, j'ignorais totalement. Tu m'as appris que c'est le premier pays au monde qui interdit les sacs plastiques.
Dans les supermarchés.
Et c'était quand, ça?
Ça a dû dater déjà d'il y a au moins 10 ans.
D'accord.
Oui.
Et ça, vous grandissez avec cette conscience écologique.
Oui. Et aussi, je me rappelle même en étant très jeune enfant, des discussions avec mes parents sur l'énergie nucléaire. Et ils ont été, parce qu'ils ont été eux-mêmes manifestés, ils nous ont emmenés, ils étaient tout petits, pour manifester contre une station nucléaire qui devait s'implanter pas loin de notre domicile. Et heureusement, ils ont réussi à le bloquer. Et voilà. Et les personnes aiment beaucoup la Terre, sont très proches de la Terre. Peut-être depuis le passé, beaucoup de familles sont descendues de la Terre, de l'agriculture. Et je pense que c'est resté, c'est omniprésent. Comme on a peu d'industrie et le tourisme, choyer ce pays, ce paysage, et les gens aiment le pays, et je pense que l'écologie en est une conséquence, quelque part.
Ah, y a une conscience que vous vivez sur une terre un peu à part, en fait, et que...
Il faut la protéger.
Ouais. Mais justement, alors, on a reçu une Islandaise ici, qui nous a parlé un peu des conditions quelque peu difficiles. L'Irlande, on chambre toujours un peu en disant, ouais, bah, il pleut, il y a du vent.
Mais pas tout le temps, Alice, et pas tous les jours, quand même.
Alors, non,
c'est
mais,
un mythe.
Alors, je crois il y a quand même le Gulf Stream qui fait que
c'est un climat océanique, c'est sûr.
Très doux.
Oui.
Mais c'est vraiment un pays où on se met à l'abri. Enfin, moi, c'est vrai que l'image de l'Irlande, c'est un ciel gris, c'est très vert, c'est magnifique, mais un brin gris quand même.
Comme la Bretagne.
Dis-moi. Ah non, c'est pas tout à fait.
C'est pas complètement faux, c'est pas complètement vrai, Alice. Ton image, tu as en tête, c'est ce que je dis souvent en Irlande, le temps change souvent. Parfois, quand on est en pleine terre ou en France, il se peut qu'il fasse gris ou qu'il pleut toute la journée, tandis que là,
il y a la chape.
Sans cesse. Comme le pays est assez petit quand même au niveau géographique, je ne saurais pas donner la superficie exacte. Je devais la connaître, je ne la connais pas. Mais on va dire que c'est un petit pays, une petite île, donc balayé en permanence.
81 638 km².
Merci Alice pour cette précision. Et de fait, comme c'est un petit pays, climat océanique, très influencé par la mer et puis par le vent. Donc, on peut avoir cette grisaille dont tu parles, Alice, il peut pleuvoir et bien sûr, il pleut, mais après, c'est balayé, on voit des très, très beaux arcs-en-ciel, avis toujours aux amateurs photographes, des arcs-en-ciel de toute beauté en Irlande, mais vraiment très, très, très beaux. Et donc, le temps change plusieurs fois par jour, en fait. Mais il ne pleut pas tous les jours, Alice. Sincèrement, il ne pleut pas tous les jours.
Non, je joue vraiment sur les clichés parce que, oui. Parce que voilà, c'est un petit peu,
tu es loin d'être un cas unique. On me dit toujours ça, il pleut tout le temps en Irlande, ce n'est pas vrai. Et je pense aussi avec le réchauffement climatique, il fait quand même plus chaud là-bas aussi qu'avant. Mais c'est certain, je avis aux touristes, on n'y va pas pour bronzer quand même.
Ouais, c'est ça.
Il vaut mieux prévoir d'aller à la plage en France et pour finir son bronzage avant d'aller en Irlande.
Avec beaucoup d'imagination, je suis sûre qu'on y arrive.
C'est un peu compliqué pour le bronzage. Voilà.
Dans les autres clichés, tant qu'on y est, le pub.
Le pub.
Est-ce que Alice. Les gens se retrouvent au pub parce qu'il pleut? Bon, allez, non, mais histoire de... Voilà.
Le chapitre météo est clos, Alice.
Voilà, c'est ça.
On n'en parle plus.
Qu'est-ce qui fait... C'est quand même très, très spécifique, le pub à l'Irlande, quoi. Tout le monde en parle. Ouais. Alors, bon, c'est très spécifique à la Grande-Bretagne.
Aussi, mais exactement. Donc, ça fait vraiment partie, c'est ancré dans la culture. Et les soirées peuvent démarrer ou terminer au pub. Le pub, c'est vraiment le point de ralliement. Il y a quand même moins cette tradition qu'on trouve en France de se retrouver autour de la table chez les uns, chez les autres. On se retrouve tous au pub.
À l'extérieur.
Avec les voisins, les amis, etc. Par contre, ce qu'on peut constater aujourd'hui, autant la culture d'aller au pub est très, très présente dans les villes. Malheureusement, elle commence à se perdre dans la campagne et c'est vraiment, même les Irlandais eux-mêmes sont tristes parce que c'est par le renforcement des contrôles de l'alcool au volant. Il faut être lucide, c'est une conséquence directe. Les personnes à la campagne n'osent plus faire des kilomètres en voiture pour aller au pub. Ici, c'est pour aller au pub et boire de l'eau. Ils restent chez eux. Mmh. S'ils vont au pub, ils vont boire de la bière ou du whisky, comme vous savez bien. Ouais. Donc, du coup, il y avait une fréquentation vraiment en baisse. Et malheureusement, quelques-uns des très beaux pubs ont dû se fermer. C'est d'autant plus triste qu'il n'y avait pas que le pub. Souvent, c'était le nerf central du village.
Ouais.
Et il y avait parfois le pub. Les plus beaux avaient un pub et une petite épicerie. Trop mignon, trop chouette, et c'est trop triste que ça.
Ça pouvait être un peu comme le café nous qu'on a dans les petits villages. C'était le lieu de vie,
le point de ralliement, et voilà, exactement, Alice.
Du village.
On y reviendra tout à l'heure. On parlera du pub. On te sollicitera, Ursula, pour te demander ton avis. Enfin voilà, on te dira ça tout à l'heure pour notre petite chronique musicale.
Ouais.
Alice.
D'accord. Bon, très bien.
Mais c'est vrai que la musique et le pub sont intimement liés.
Voilà,
exactement.
Voilà. Du coup, voilà, moi, c'était aussi le sujet que je voulais aborder. Parce que quand même, de cette, comme tu dis, petite île de, combien j'ai dit, 80 000 km², sont sortis quand même un paquet de groupes.
Quelle fierté.
Alors moi, avec ma petite culture musicale, voilà. Bon, tu me parles Irlande, je dis YouTube, c'est à peu près. Mais il y a les Cranberries.
Il y a Sinead O'Connor.
La famille de Corrs,
la liste est longue.
Et ça représente quoi la musique en Irlande?
C'est ancré dans la vie quotidienne, c'est vraiment une partie, je dirais, c'est pour ça je pense qu'il y a autant de talents, parce que la musique elle est omniprésente. Elle n'est pas qu'au pub, et puis aussi, je pense beaucoup de Français le savent déjà, il y a aussi des avantages fiscaux pour les artistes.
Ah tiens.
Et les écrivains.
D'accord.
Et même des écrivains connus à Français qui ont élu domicile en Irlande pour les avantages fiscaux.
Des avantages fiscaux pour les écrivains. Alors ça, c'est quand on parle de l'exception culturelle française,
voilà, effectivement. Donc, il y a beaucoup de bénéfices de la musique, etc., qui ne sont pas imposables en Irlande pour encourager justement cette culture. Et puisqu'il y a beaucoup de pubs, surtout dans les villes, on parlait de disparition des pubs à la campagne, mais les pubs en ville, il y en a encore un très bon nombre. Et souvent, les pubs, c'est un lieu rêvé pour faire ses premiers pas sur scène. Et donc, avec cette multitude d'opportunités, il y a plein de groupes qui se mettent sur scène et qui ont cette expérience de musique. Et puis, les Irlandais aiment beaucoup la musique, achètent beaucoup de musique, donc l'un dans l'autre. Et il faut aussi dire, et là, c'est mon côté plus impartial, moins passionné, le fait aussi de chanter en anglais, ça facilite aussi pour l'export. Bien évidemment.
Après,
tout le marché mondial qui est peut-être ouvert et qui est à leurs pieds quand ils ont une réussite, les États-Unis notamment, mais pas que. Ce qui est peut-être plus compliqué pour les artistes en France.
C'était J'adore. L'année de la francophonie. Merci Ursula.
Mais en effet, pour se faire connaître, il y a la langue anglaise. Mais est-ce que ça veut dire que la pratique musicale, elle est dès l'école? Est-ce que ça veut dire que vous êtes élevé vraiment dans la pratique de la musique, quoi? Ou est-ce que c'est juste culturel?
Il y a énormément de petites chorales même des petits villages. Les personnes se retrouvent pour chanter. Et puis aussi des fanfares.
D'accord.
Un peu comme on trouve aussi en Bretagne, lors des défilés. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Beaucoup en Irlande. Donc, des personnes de tout âge qui font de la musique et qui apprennent justement un instrument. Par contre, à l'école, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence.
D'accord.
Entre l'enseignement de la musique à l'école au niveau scolaire par rapport à la France, je ne constate pas une grande différence là-dessus.
Mais la musique traditionnelle est encore très présente. Du coup, elle n'est pas...
Absolument.
Elle ne tend pas à disparaître.
Non, d'accord. du tout. Et d'ailleurs, les deux cohabitent. On se rappelle tous de Pogues qui étaient parmi les premiers justement à faire cette fusion de la musique plus traditionnelle et des choses plus modernes. Mais la musique traditionnelle est encore bel et bien adorée par les jeunes et les plus grands aussi. Il y a beaucoup de concerts et beaucoup de festivals. Oh. Malgré la pluie, Alice. On arrive quand même à faire des festivals de musique.
Récemment, c'était le festival... Interceltique.
C'est à Lorient. C'est au mois d'août.
Avec tous les groupes...
Merci Véronique de ton intervention. Non, mais l'Irlande a dû être invitée, certainement, une année.
Chaque année.
C'est ce que j'allais dire. À l'Interceltique.
Le problème, c'est qu'on ne me laisse pas finir mes phrases non plus. Hein.
Pardon.
Il fallait jusqu'au bout de la, la pensée. C'était très juste, ce festival. Tous les intervenants de musique celte viennent.
Exactement.
Je suis pour la paix sur le plateau.
Exactement. Merci.
Et alors, on a dit, forcément, il y a un rapport très, très proche avec la Grande-Bretagne. C'est quoi alors? Brexit, problème. C'est quoi le rapport entre l'Irlande et l'Angleterre, l'Irlande et le Royaume-Uni?
Alors, j'ai même pas peur de me répéter à chaque fois, Alice, je dis que c'est complexe. C'est encore la même réponse, c'est bien très complexe. Il y a beaucoup de familles, et je peux citer déjà la mienne comme exemple, où à l'époque où le pays avait du mal... les personnes avaient du mal à trouver de l'emploi, il y avait beaucoup de la crise économique, les personnes quittaient soit pour plus loin, comme on voit dans Titanic, ils allaient aux États-Unis, mais beaucoup ont été juste à côté en Angleterre. Donc, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont installés à Londres et ailleurs. Et donc, dans presque toutes les familles, il y a un chapitre de la famille qui se trouve en Angleterre. Donc, il y a des liens faussement privilégiés. Et les Anglais qui reviennent beaucoup en Irlande en vacances.
D'accord.
Et dépenser de l'argent pendant les vacances. Et puis, énormément d'échanges aussi entre les deux pays.
Ouais.
L'Irlande exporte énormément, par exemple, de produits alimentaires en Angleterre. C'est juste un exemple, mais il y en a d'autres produits aussi. Et le fait de la proximité géographique, il y a des liens qui sont tissés au niveau des échanges. Et puis aussi ce côté, comme je dis, historique, des Irlandais qui sont installés beaucoup en Angleterre, puisque c'était juste à côté, il y avait plus de chances de travail, notamment à Londres. Il y a énormément d'Irlandais, une communauté très, très forte d'Irlandais à Londres.
Ouais. En fait, il y a eu un moment où toutes les industries sont parties en Angleterre. Finalement, les Irlandais sont allés bosser là-bas. Donc, l'Angleterre s'est bien polluée avec ses usines à...
Voilà, et l'Irlande est restée propre pendant
l'Irlande
ce temps-là.
L'Irlande a su rester propre.
Exactement. C'était le prix à payer.
Et c'est ça. Et c'est redéveloppé finalement avec le tertiaire.
Exactement, Alice. Très juste.
C'est ça. Il fallait conserver...
Oui, il y a la tourbe.
Il y avait la tourbe. Ouais.
Ça sent très, très bon quand on brûle la tourbe dans la cheminée. Quel parfum, c'est magnifique. Ça sent super bon, c'est vrai.
Et tant qu'on est à parler de lien avec des grands frères, le lien avec... alors moi, j'avais complètement zappé ça, que Mr. Kennedy avait des racines irlandaises.
Ah oui, John F. Kennedy.
Voilà.
Il vient du sud-est d'Irlande.
Tu me disais qu'il y a une grande, grande communauté irlandaise aux États-Unis, en fait. C'est
immense, immense.
Il faut juste rappeler qu'il y a une grande famine fin 19e, dans les 19e. Années 1847, je crois... qui a poussé, alors, et vous savez pourquoi? Parce que nous, on est concernés ici à cause du mildiou. Le mildiou qui a terrassé nos vignes, a terrassé la pomme de terre, qui était la
exactement.
Principale culture irlandaise.
Voilà, et sans pomme de terre, on crevait de faim, effectivement.
Et 1 million de morts et 1 million d'émigrés, du coup, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en l'espace, je crois, de moins de 10 ans, le pays est passé de 8 à 6 millions d'habitants, ce qui est quand même assez terrifiant.
C'est assez spectaculaire.
Voilà.
Et notamment, même dans l'histoire des États-Unis, on retrouve dans tous les grands chantiers de New York, tous les skyscrapers, pardon, les gratte-ciels, pardon, Alice. gratte-ciel. C'est les Irlandais qui ont construit énormément de chemins de fer aussi. Et ils ont énormément aidé donc, à la construction aux États-Unis. Ils étaient sur tous les chantiers, pareil en Angleterre, mais là, on parle spécifiquement des États-Unis. Et justement aussi, énormément d'Irlandais, on retrouve encore dans les forces, chez les pompiers. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup d'Irlandais chez les pompiers. Ça facilitait, en fait, ils étaient immigrés, mais forcément, le fait de pouvoir parler la langue, je reviens toujours là-dessus et j'insiste, ça facilitait quand même qu'ils puissent avoir aussi des postes plus intéressants. Donc, beaucoup, beaucoup d'Irlandais chez les pompiers et aussi énormément chez les policiers. D'ailleurs, souvent, on voit des films aujourd'hui avec des policiers, souvent un Irlandais... un homme ou une femme de descendance irlandaise qui est policier dans la police à New York. Il y en a énormément. Donc, il y a des enclaves, entre guillemets, des endroits aux États-Unis. Il y a beaucoup d'Irlandais, notamment New York, mais pas que. Chicago aussi, dans quasiment toutes les grandes villes. Il y a des communautés irlandaises qui sont très importantes. Et comme je disais, John F. Kennedy aussi.
Oui, c'est
une
ça.
Famille mais irlandaise.
Le film de Scorsese, si je ne dis pas de bêtises, Gangs of New York, il me semble que ce sont des gangs irlandais. Hein. Je regarde Jérémy, notre spécialiste S-cinéma. Mais il me semble que c'est ça le
En tous les cas, ils sont effectivement très, très nombreux là-bas. Ils sont restés et maintenant, ils sont vraiment intégrés. Et un exemple, c'est anecdotique, mais c'est assez drôle, c'est en parler tout à l'heure dans le quiz du 17 mars de Saint-Patrick, c'est le parade, le défilé pour la fête nationale irlandaise de Saint-Patrick du 17 mars est immense à New York et certaines années même ils teignaient la rivière verte en bois de la bière verte, on fait des défilés dans la rue et le défilé est beaucoup plus spectaculaire à l'échelle américaine bien sûr, à l'échelle new-yorkaise que le même défilé qui a lieu à Dublin en Irlande. Effectivement, il y a ce côté, les Irlandais et les Italiens à peu près au même titre.
Oui, c'est ça. Des grosses communautés en fait, qui ont émigré à la même époque, à l'époque au fin 19e, début 20e, où il fallait construire justement, reconstruire les États-Unis.
Exactement.
Et alors, on parle beaucoup de bière. J'ai essayé piteusement de prononcer tout à l'heure une chose qui s'appelle Irish Stew.
Ah, le plat, donc.
Ouais, si on parlait... Ah ouais, bah, tu vois, t'avais à peine compris de quoi je parlais.
C'est le plat, l'Irish Stew, bien sûr, c'est
si un ragoût. Si on parlait, gastronomie, c'est quoi la gastronomie irlandaise? On se régale ou...
Le coleslaw.
c'est irlandais, le coleslaw?
Alors, je ne sais pas. Je pense plutôt que c'est américain, le coleslaw, la petite salade de choux et des carottes.
Il y en a partout, hein.
Il y en a partout.
Il y en a pas, non hein.
Mais la cuisine américaine a un peu d'éteint aussi en Irlande. Il n'y a pas une identité culinaire forte, surtout quand on compare à la France, qui est quand même un grand beau pays au niveau gastronomique. Je parlais tout à l'heure rapidement aussi du fait que les personnes se retrouvent plus au pub qu'ils se retrouvent chez eux. Donc, il y a moins de repas...
On va plus boire une bière.
De la famille se retrouve, etc. au quotidien, oui. Mais au niveau culinaire, oui, Alice, malheureusement, il y a ce ragoût irlandais, le stew.
Malheureusement.
Qui n'est pas
toujours... Je ne voulais pas soulever de sujet
qui n'est pas
délicat.
Toujours très, 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 très bon. Voilà. Par contre, il y a quand même des bons produits, il faut être honnête. Et le saumon est délicieux en Irlande, la tuite aussi. L'agneau est délicieux. On peut le comparer à l'agneau de pré salé qu'on peut trouver en France. Je trouve l'agneau est délicieux. Il est exporté dans le monde entier. Et des très bons coquilles Saint-Jacques.
D'accord. La pêche. En fait, c'est un pays qui est quand même pas mal basé sur l'agriculture, la pêche et finalement le tertiaire.
Exactement.
Des activités.
Alors aujourd'hui, bien sûr, à Dublin, dans les grandes villes, on trouve, comme nous disait le coleslaw, des burgers comme en France. Mais il n'y a quand même pas une identité. Il y a pas, il y a 4 ou 5 petites recettes, mais il n'y a pas du tout cette culture gastronomique. Qu'on peut trouver en France, ça n'existe
et,
pas.
Et tous les cakes là, les cupcakes, les apple pie, tout ça, c'est plus anglais qu'irlandais en fait. C'est
et
pas
plus américain aussi.
Et plus américain.
Ouais.
D'accord.
Très peu de.
Et je dis ça parce qu'il y a un salon de thé qui s'est ouvert il y a peu à Chouzy-sur-Cisse avec une personne qui a vécu chez Poppy qui a vécu 20 ans en Irlande et qui m'a dit surtout une chose, qui m'a dit si je peux faire comprendre ce que c'est que l'accueil irlandais en France, j'aurais gagné.
Ah,
et ça, c'est vraiment...
Comme je disais au début de l'émission, le Cade Milafalte, ce fameux 100 000 fois bienvenue, c'est vraiment effectivement quelque chose, je ne suis pas impartiale sur le sujet, mais que me disent tous les Français, effectivement, que ce soit dans le pub ou chez les particuliers en bed and breakfast, ils adorent l'accueil des Irlandais.
C'est-à-dire une façon de parler, en fait, de s'intéresser aux gens, de les aborder spontanément.
C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, je pense qu'il y a des points communs entre les Français et les Italiens, enfin les Latins et les Irlandais, pourtant... comme dit Alice, il pleut, il fait gris. Mais les sociologues ont fait des études,
et je n'ai
pas les chiffres exacts, Alice, mais les sociologues, ils ont fait des études, ils ont dit dans tous les pays, Pays de Galles, Écosse, Angleterre, Irlande, l'Irlande est le pays le plus latin.
Ah, d'accord.
Des pays de ces pays anglophones. Et il y a beaucoup de similitudes, voilà, d'un côté un petit peu plus latin que peut-être qu'on retrouve chez les Anglais, chez les Gallois ou chez les Écossais qu'on trouve en Irlande. Cette envie de fête, de danser, de musique,
ouais, d'être ensemble,
de chaleur. Qui on peut le classifier un petit peu latin quand même, en quelque sorte.
Mais c'est peut-être aussi le côté île. Le côté un peu fermé, enfin fermé,
c'est possible que
qui ça fait
joue.
Qu'on se retrouve, petite communauté.
C'est effectivement, oui. En parlant d'île, est-ce que tu connais, parce que tu t'es beaucoup documentée sur l'Irlande, je suis épatée par tous ces chiffres et tout ce travail de recherche, est-ce que tu connais la petite histoire des pulls irlandais?
Ah non.
Parce que là, on parlait du fait que l'Irlande est une île. Et on parlait du fait qu'il y a beaucoup de pêche. Donc, tout le monde, je pense, qui nous écoute, voit bien les pulls irlandais.
Avec des torsades.
Des torsades. Il est en général de couleur blanc cassé. Ouais. Alors, sachez qu'à l'origine, ces pulls étaient pour protéger les marins. Il n'y avait pas les petits cirés qu'on avait aujourd'hui, les petits cirés jaunes. Et évidemment, comme il pleut de temps en temps, Alice, ils avaient besoin de se protéger de la pluie. Et ces pulls avaient une laine qui était traitée à l'huile, qui les rendent un petit peu waterproof.
Imperméable. Oui, excusez-moi. Non, je traduis, je fais l'interview.
Un petit peu imperméable.
Parce que toi, tu maîtrises.
Voilà, pour imperméabiliser les pulls. Et justement, les mères de famille tricotaient ces pulls avec des câbles différents selon les familles. Comme on connaît le kilt en Écosse, selon les couleurs et selon les petits carrés, c'est une famille ou un clan différent. Et le pull irlandais, et là où c'est moins chouette, c'est que s'il y avait des noyades et on récupérait les corps, on savait de quelle famille étaient les marins. Qu'on repêchait grâce, c'était leur carte d'identité portatif.
Comme un blason.
Comme un blason.
Ouais.
Donc ça, c'était l'histoire. Il y avait un tas de... Et donc, la famille devait respecter tel ou tel
façon de
type de câblage, de pull. Voilà.
D'accord.
Alors, on va terminer sur le pull irlandais.
Ah, déjà,
je sais que tu avais encore des sujets à aborder. Je suis désolée, mais
non,
le
pas
temps
grave.
Passe.
Tu m'as coupé la chute.
Le temps passe et la musique...
nous
arrive.
Ah oui.
What's wrong, right? So beautiful.
Et voilà, c'était Girls Band, donc un groupe irlandais, hein, on reste dans le thème, hein, avec le titre Réticence. Alors, on a une petite chronique à vous proposer avec Jérémy.
Oh bah tiens donc.
Bah oui, de la musique, toujours de la musique. Alors, on va rester en Irlande. Alors, parce que on va un petit peu étoffer ce dont vous parliez tout à l'heure, sur le pub, la musique, la tradition du pub, etc. Parce que dans mon souvenir de voyage...
tu as écumé les pubs.
Je me souviens des pubs et j'ai un souvenir d'un voyage de 4 semaines en Irlande avec quasiment tous les soirs au pub, quand même.
Ouais. Ah oui, donc beaucoup de musique.
Beaucoup de musique, du jus d'orange,
hein, oui,
voilà,
évidemment.
Voilà, oui. Ou de la limonade éventuellement. Voilà. Et surtout l'accueil irlandais, formidable.
Ah, super. Donc,
je confirme. Donc le soir, en fait, c'est vrai que la musique, j'ai constaté que la musique était partout en Irlande, mais absolument partout, dans la rue. Ça m'a fait penser un petit peu à la Nouvelle-Orléans, j'y suis pas allée, mais je pense que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un truc, musical partout, dans les familles, souvent, parce que nous, on dormait chez l'habitant, et je me souviens que les gens jouaient aussi chez eux. Il y avait beaucoup d'Irlandais sont musiciens, Et donc, quand vient le soir, comme tu disais, des fois il pleut.
Pas souvent, hein, je peux comprendre. Complètement abusé.
Bon, alors on va dire que des fois il pleut.
Hein. Sur 4 semaines, quand même, statistiquement, il y a des chances qu'il a plu au moins une fois. C'est certain.
Et les Irlandais et Irlandaises vont en famille ou entre amis ou seuls.
En famille aussi, beaucoup.
Ah, oui, beaucoup, absolument. Beaucoup en famille.
C'est-à-dire qu'il y a des enfants,
Il y a des enfants.
On va avec les enfants.
Exactement. Ouais. Moi, j'ai souvent vu dans les petits pubs, pas en ville parce qu'on n'était pas en ville, mais j'ai vu beaucoup d'enfants, avec leurs parents. Et effectivement, quand vous y allez seul, on reste pas longtemps très seul, hein, parce que tout le monde parle avec tout le monde. Enfin, c'est vraiment très très bien. Et il y a ce qu'on appelle les sessions dans les pubs. Alors les sessions,
la musique, absolument,
la musique,
exactement,
la musique où finalement chacun y va de avec son instrument, avec sa compétence musicale, et on joue ensemble.
Ah, c'est un peu des bœufs, en fait.
Voilà,
c'est des bœufs qui sont formés sur le tas, sur le moment, et ça peut durer toute la nuit. Spontanément, c'est vrai.
On vient au pub avec son instrument et puis on peut jouer comme ça à l'arrache.
Tout à fait. Alors ça donne des ambiances formidables à chaque fois, et il n'y a absolument aucune compétition.
C'est juste pour le plaisir
et les gens prennent du plaisir. Voilà, exactement. Comme je disais, le jus d'orange et la limonade, c'est à consommer avec modération.
Bien entendu.
Voilà. Absolument.
Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Musique et limonade. c'est bien connu. Et alors, qu'est-ce qu'on entend dans les pubs irlandais, justement, musicalement? Alors, apparemment, tu vas me confirmer, Ursula, on écoute beaucoup de musique de danse.
Oui.
Hein de la musique
danser.
De danse. Donc, on entend le jig.
Yes. Je confirme.
Hein, c'est bien ça.
Véridique, absolument, absolument.
Et oui. On entend, pardon pour la prononciation, le reel, c'est ça?
Yes, absolument, jigs and reels.
Jigs and reels. Alors apparemment...
Il y a le fameux spectacle de danse qui est très connu,
River Dance. Ouais.
Qui a beaucoup fait connaître ces jigs and reels dans le monde entier.
Exactement.
Grâce à ce grand spectacle, c'est exactement ça.
Alors, cette musique, elle est... Alors moi, j'ai souvent vu des danseurs, les musiciens accompagner les danseurs, souvent des enfants qui dansent. Je pense qu'il y a des écoles peut-être.
Il y a des écoles de danse, il y a même des compétitions, parce que tous les week-ends, il y a beaucoup de danse, ça va de pair avec la musique. Effectivement, voilà. C'est omniprésent.
Est-ce que tu peux m'éclaircir sur un point, parce j'ai vu des danseurs, donc le reels, le corps est immobile en haut et les jambes tricotent en bas.
Beaucoup.
Alors on voit quasiment rien. Et parfois il y a un sabre au sol. Et apparemment, ça danse autour du sabre. Alors, ça doit avoir une signification, je ne sais pas laquelle. Enfin, on restera dans le mystère si quelqu'un peut me le dire.
Ah,
voilà.
Je ne connais pas. Donc, danse du sabre.
Ouais, ouais. La danse du sabre.
C'est une soirée japonaise, peut-être.
Pas du tout.
Non, d'accord.
Très international, les spectacles de danse visités, ouais. Je ne connais pas.
Ouais.
J'ai tenté un ou deux cours pour tout
alors,
vous dire. Ce soir, j'ai tenté un ou deux cours, c'était un peu un désastre. Donc, ce n'est pas trop mon sujet d'expertise.
Mais sinon, la musique irlandaise qu'on entend dans les pubs, c'est folk, hein. C'est très folk.
Beaucoup. Sauf quelques adresses un peu pointues, je pense que c'est un peu comme en France, il y a des établissements qui se font une réputation pour jouer tel ou tel genre de musique, et comme ça que le public sait, en allant à tel ou tel pub, on peut choisir, tiens, ce soir j'ai envie d'un peu de soul ou de folk, on peut choisir en fonction, mais c'est vrai que je dirais au niveau pourcentage, c'est une majorité, folk quand même.
Et en tout cas, ce qu'il y a de commun, c'est qu'on entend à peu près toujours les mêmes standards. Ça revient par exemple de The Foggy Dew, c'est ça?
The Foggy Dew, absolument.
I was down by the glen one Easter morn.
Ça c'est très très connu.
Un morceau traditionnel. Hein.
Exactement.
Et là, on retrouve le côté un peu mystique.
Voilà,
quand on parle de
tout à l'heure. Ouais. Nous, on a nos groupes bretons, Celtes, Dernard Braz, Alan Stivell.
Oui, c'est beaucoup
de similitudes.
Un Dernard Braz, un Alan Stivell, il y a quelque chose de ça. Hein.
Bien sûr.
Beaucoup de similitudes.
Et beaucoup plus punchy,
Whiskey in the Jar. Absolument, grand classique. C'est de danser là-dessus, ce n'est pas facile. Le rythme est tellement diablé que là, c'est compliqué. Il faut tenir physiquement.
Eh bien, avec beaucoup de limonade, on y arrive.
C'est la réponse à tout, la limonade.
C'est ça. C'est l'expérience qui parle, là.
Oh là là.
Et bien sûr, Non, tu ne nous as pas mis Dirty Old Town. Hein.
Ben non, je
ne
l'ai pas.
Dirty Old Town, pareil. Hein.
Ah,
repris. C'est un traditionnel aussi, Dirty Old Town.
Absolument.
Parce que ça a
été repris
par tout le monde.
Et on le chante à tue-tête et tout le monde connaît les paroles et c'est un grand classique.
Et qu'est-ce qu'elle dit
avec ou sans limonade, d'ailleurs, Dirty Old Town.
Il n'y a pas besoin de limonade.
Pas besoin de limonade pour Dirty Old Town.
Oui. Et juste un dernier point. À confirmer aussi, mais il me semble que les chansons folk ou traditionnelles parlent beaucoup de l'histoire du pays.
Absolument.
Hein, c'est très prégnant, ça.
Effectivement.
Très important pour les Irlandais.
Des très jolies paroles en général. Et même si là, on a entendu le morceau tout à l'heure, le monsieur, il chante très, très, très vite. Les paroles en général sont très belles. Et des belles histoires.
Bon.
On compte beaucoup de légendes et beaucoup d'histoires en Irlande. Et c'est vrai que c'est très, très juste. Les paroles sont toujours très jolies et...
Oui,
ça vaut la peine de les écouter.
Ouais,
je dirais.
Tout à fait. Donc, nous invitons tous nos auditeurs à se pencher sur la culture et la musique et les traditions irlandaises et surtout y aller. C'est un voyage
avec le parapluie dans la main gauche et l'appareil photo dans la main droite.
Voilà.
Et comme ça, on est paré pour toutes les éventualités.
Et le bob pour le moment où le soleil est là.
Effectivement, il y a le soleil
pour
quand même aussi.
Ça jure un peu le Bob. Hein.
Ça va pas
dans le
Connemara,
ça jure.
Ah d'accord.
Ouais, ça jure.
Bon, bah, je l'emmènerai pas alors.
Alors, on se dirige très lentement, mais très sûrement vers la fin de cette émission. Mm-hmm. Hélas, on était bien là. Hein,
ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on est content d'être venu.
C'est vrai.
Pour votre entrée. En tous les cas, merci beaucoup de votre invitation.
Un grand merci, Ursula, pour toutes ces précisions sur l'Irlande. Et puis, merci Alice, merci Jérémy. On se retrouve le mois prochain.
On se retrouve le mois prochain.
Voilà, on peut repréciser, donc, comme d'habitude, Un œil ailleurs est rediffusé en podcast. Vous pouvez le trouver en podcast sur le site de studiosef.fr.
Peut-être
santé.
Qu'on trouvera sur le site quelques références musicales, oui. Une petite carte de l'Irlande.
On va faire tout ça bien. On va essayer de commencer l'année correctement.
Tout à fait. On va faire nos devoirs.
Voilà. Merci beaucoup à tous.
Ciao à tous.
Ouais.
Merci,
salut.
Bonsoir. Belle soirée.
Merci.
I'm gonna dance with her now, all right? Come on.
What?
Come with me.
Jack, wait. I can't do this.
We're gonna have to get a little bit closer. Like this.
I don't know the steps.
Neither do I. Just go with it. Don't think.